France Musique.
Alors moi, il m'épate.
Mazette, quelle musique! Jean-Yves Larouturou, France Musique, c'est l'été.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose.
Bonjour à toutes et à tous. Cinquième émission de notre série estivale, Mazette, quelle musique! Après l'émission sur le chaos et les clusters samedi dernier, aujourd'hui, un peu de détente, un peu de respiration, un jeu. Original ou produit dérivé, à vous de choisir. Pour chacune des 12 séquences du jeu, deux questions. Premièrement, quelle est votre préférence personnelle entre l'original et le ou les produits dérivés que nous aurons écoutés? Et puis deuxièmement, devinez quel sera le choix majoritaire du public? Qu'est-ce qui sortira en tête des réponses de tous les auditeurs aujourd'hui en réécoute, en podcast? Avant de commencer, une séquence à blanc, juste pour vérifier que chacun est bien à l'aise, a bien compris et est prêt à se lancer dans le jeu. L'original, Tarzan, l'homme singe, Johnny Weissmuller, 1932. Le produit dérivé, le début de Stripsody 2 et par Cathy Berberian, 1966. Deux questions donc, une, qu'est-ce que vous préférez? Deux, qu'est-ce que le public aura préféré? À vous de choisir et de deviner. Pas de possibilité d'appeler qui que ce soit, ni votre voisine, ni le directeur de France Musique. Ça serait pourtant bien commode. Donc, 12 manches, chacune avec deux ou trois morceaux ou extraits d'une durée maximale de 2 minutes, sauf lorsqu'il nous paraîtra absolument inconcevable de couper. Tout le monde est prêt? C'est parti. Première manche, c'est mon bac. L'original d'abord, 1721, le cinquième des 6 concerts avec plusieurs instruments dédiés à son Altesse Royale, Monsieur Chrétien Louis Margrave de Brandenburg, par son très humble et très obéissant serviteur Jean-Sébastien Bach, en français dans le texte. Cinquième concerto brandebourgeois, donc, 3 instruments principaux, une flûte traversière, un violon, un clavecin très concertant et virtuose. Le superbe thème initial en ré majeur va jouer le rôle d'un refrain et on alterne entre des couplets de plus en plus divers, avec une grande richesse d'invention, d'affect, dans le dialogue entre les 3 solistes. En 1972, César et Rosalie et David. Yves Montand, Romy Schneider et Samy Frey, ça ne nous rajeunit pas. 3 solistes d'une histoire de trio amoureux, un film réalisé par Claude Sauté, scénario dialogue de Jean-Louis Dabadie. La mère de Rosalie se remarie, César organise tambour battant la cérémonie, transforme le cortège de voitures en rallye de compétition, anime le banquet de noces au pas de charge et chante son bac, c'est le produit dérivé.
C'est mon bac, ça.
Il en connaît beaucoup comme ça.
Non, seulement celui-là. Il a appris par cœur.
Pourquoi faire ?
Pour moi.
À vos choix. Deuxième manche, ou comment s'emparer de la musique des ennemis. 1782, l'empereur Joseph II commande à Mozart un Singspiel, un opéra comique allemand, des airs chantés, des dialogues parlés. Ce Singspiel sera l'enlèvement au sérail, une turquerie qui se termine bien, comme on en a vu tant et tant depuis un bon siècle en Europe. L'ouverture commence par 8 mesures presto et piano, do majeur, très enjoué, et soudain forte, les percussions, tambours, triangles, cymbales font leur entrée et ponctuent une mélodie bien carrée, un rythme bien marqué. Ce n'est plus tout à fait du Mozart, en fait, c'est la musique des janissaires, les troupes d'élite de l'armée ottomane, constituées de captifs et d'esclaves chrétiens. À Vienne, le souvenir de ces troupes reste vif. En effet, les janissaires étaient sous les murs de Vienne lors du siège de 1683. L'influence ottomane demeure présente, on lui doit la mode des cafés, puis on lui doit aussi indirectement les croissants. Mais surtout, aux frontières de l'Empire, la sublime porte, l'Empire ottoman, est une puissance crainte. Cette musique pseudo-turque écrite par Mozart est certes une parodie amusante, distrayante, mais c'est aussi une forme d'exorcisme. Nous écoutons d'abord l'original, une marche guerrière de janissaires, puis le produit dérivé, la première partie de l'ouverture de l'enlèvement au sérail. Le moment du choix. Boing. Troisième manche, c'est le compositeur lui-même qui dérive. d'une petite œuvre pour piano de ses 20 ans, dont il pensait d'ailleurs avoir égaré la partition, Pierre Boulez, le compositeur lui-même, va faire un magnifique produit dérivé 30 ans après. Certaines des notations pour piano de 1945 vont ainsi être réécrites complètement pour un effectif orchestral considérable, avec des couleurs instrumentales rutilantes. C'est en particulier le cas de la quatrième notation. La pièce pour piano est caractérisée par des rythmes très saccadés, obsédants même, et puis une formule de 6 notes répétées. On les retrouve dans la pièce orchestrale, mais la durée fait plus que doubler. De 30 secondes, on passe à 1 minute 20. Et surtout, avec cet orchestre flamboyant, ici ça va être la Philharmonie de Vienne, on est pris dans un flot saisissant. C'est tellement éruptif, proliférant, que l'on se demande bien comment et pourquoi cette centaine d'instrumentistes déchaînés parviennent à s'arrêter tous au même moment, si ce n'est qu'ils sont dirigés par Claudio Abbado. L'original au piano joué par Pierre-Laurent Aymard, et ensuite le produit dérivé au grand orchestre fastueux. Original, dérivé, à vous de choisir. Quatrième manche, attention aux dérives le long de la scène. Un exemple parmi des millions, sans doute, l'original, c'est un poème. Le produit dérivé, c'est ce poème mis en musique. Le 15 mai 1915, non loin du front, Apollinaire écrit à Louise de Coligny-Châtillon, Lou. Comme souvent dans les lettres adressées à Lou depuis le début de la guerre, un magnifique poème figure dans cette lettre, ce sont les attentives, un chant d'amour et de mort des soldats et des amants à la guerre. Au printemps 1969, Shostakovitch, malade, déprimé, obsédé par la mort, écrit un cycle de 10 chants pour soprano, baryton et orchestre à cordes et percussions. 10 poèmes ou extraits de poèmes qui tous parlent de la mort. Parmi eux, deux extraits des attentives d'Apollinaire, les 5e et 6e mouvements de ce cycle qui va devenir la 14e symphonie de Shostakovitch. Grande sobriété de l'écriture, grande inventivité, juvénile dirait-on, libre de toute contrainte et pourtant un compositeur plongé dans le désespoir, proche de l'épuisement physique et existentiel. Nous écoutons l'original, Apollinaire, puis le produit dérivé, le 6e mouvement de la 14e symphonie de Shostakovitch, François Sureau, puis Julia Varadi, Edith Rich-Fischer-Dieskau, accompagné par l'orchestre du Concertgebouw et Bernard Haitink.
Celui qui doit mourir ce soir dans les tranchées, c'est un petit soldat dont l'œil indolemment observe tout le jour au créneau de ciment les gloires qui de nuit furent accrochées. Celui qui doit mourir ce soir dans les tranchées, c'est un petit soldat, mon frère et mon amant. Et puisqu'il doit mourir, je veux me faire belle. Je veux de mes seins nus allumer les flambeaux, je veux de mes grands yeux fondre les temps qui gèlent, et mes hanches, je veux qu'elles soient des tombeaux. Car puisqu'il doit mourir, je veux me faire belle. Dans l'inceste et la mort, c'est de gestes si beaux, les vaches du couchant meuglent toutes leurs roses, l'aile de l'oiseau bleu m'éventent doucement. C'est l'heure de l'amour aux ardentes névroses, c'est l'heure de la mort et du dernier serment. Celui qui doit périr comme meurent les roses, c'est un petit soldat, mon frère et mon amant. Mais madame, écoutez-moi donc, vous perdez quelque chose. C'est mon cœur, pas grand-chose. Ramassez-le donc. Je l'ai donné, je l'ai repris. Il fut là-bas dans les tranchées, il est ici, j'en ris. Des belles amours que la mort a fauchées, l'espoir flambe ce soir comme un pauvre village et qu'importe le bagne, ou bien le paradis. L'amour qui surviendra me plaira davantage, et mes yeux sont ce pas de merveilleux bandits. Puis quand, malgré l'amour, un soir je serai vieille, je me rappellerai la mer, les orangers, et cette pauvre croix sous laquelle sommeille un cœur parmi les cœurs, que la gloire a vengé. Et tandis que la lune, lui, le cœur chante et rechante, lui, mesdames et mesdemoiselles, je suis bien mort, à quel ennui! Et ma maîtresse connaît-elle morte en m'aimant la nuit? Mais écoutez-les donc, les mélopées, ces médailles si bien frappées, ces cloches d'or sonnant, les glas, tous les muguets, tous les lilas, ce sont les morts qui se relèvent, ce sont les soldats morts qui rêvent aux amours qui s'en sont allés, immaculés et désolés, le 13 mai de cette année. Tandis que dans les boyaux blancs, tu passais masqué, ô mon âme, tu vis tout d'un coup les morts et les vivants, ceux de l'arrière, ceux de l'avant, les soldats et les femmes. Un train passe rapide dans la prairie en Amérique, les vers luisants brillent cette nuit autour de moi comme si la prairie était le miroir du ciel étoilé, et justement, un vers luisant palpite, sous l'étoile nommée loup. Et c'est de mon amour le corps spirituel et terrestre, et l'âme mystique et céleste.
Madame, écoutez-moi donc, vous perdez quelque chose.
Ah, c'est mon cœur. C'est mon cœur, pas grand-chose. Ramassez-le donc. Je l'ai nommé, je l'ai prêté, et fait là-bas dans l'étranger. Il est ici,
c'est le moment de choisir. Cinquième manche, le crossover, serait-il une dérive? Cela devient un brin plus compliqué. Non plus deux, mais trois extraits, deux originaux et un double produit dérivé. D'abord, le prélude en mi mineur du premier livre du clavecin bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Profond et pensif, désolé et triste, comme l'a dit Matheson, un des contemporains de Bach. Ensuite, le fameux Lullaby of Birdland, composé en 10 minutes par George Shearing en 1952. C'était à la demande du patron d'un club de jazz de Broadway qui avait été baptisé Birdland en hommage à Charlie Parker nommé Bird. Un standard immortel et notamment grâce à l'interprétation que nous allons écouter de Sarah Vaughan. Quel rapport avec Bach? Absolument aucun. Si ce n'est le projet de crossover Song Play de la formidable Joyce DiDonato en 2018, sur le pont qui va du classique au jazz, de Bach à Lullaby of Birdland, un produit dérivé, complexe, comme on dit sur les marchés financiers, donc à surveiller de près. À vous de juger Bach, Sarah Vaughan, et deux pour le prix d'un avec la voix de Joyce DiDonato.
Thank you. by, always here when you sigh. Never in my word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby a birdland whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
Mazette, quelle musique! Jean-Yves Larouturou, France Musique, c'est l'été!
Aussi quel marketing, non? Enfin, choisissez. Sixième manche entre plagiat et hommage. À nouveau, trois extraits, mais pour cette manche en inverse. Un original et deux produits dérivés. L'original, Tristan et Isolde de Wagner, un de ces chefs-d'œuvre susceptibles de rendre l'adolescent ou le demi-vieillard complètement insomniaque. Nous écouterons le début du prélude. Deuxième extrait, la scène d'amour de la suite Vertigo de Bernard Herrmann. Bernard Herrmann, vous savez, c'est le sans doute le plus grand compositeur d'Hollywood, le musicien de Scorsese, Orson Welles, de Hitchcock. Et dans Vertigo de Hitchcock, sueur froide en français, James Stewart Scotty est sujet au vertige, il est l'objet d'une machination grandiose. Kim Novak joue à la fois Madeleine, blonde et distinguée, et Judy, rousse et pas très chic. Judy accepte de se transformer en Madeleine, même tailleur, même blondeur, même chignon, c'est la scène d'amour romantique et totalement cynique à la fois. Alors, vous vous souvenez peut-être des apparitions de Hitchcock, ce que les spécialistes appellent les caméos. On le voit dans ses propres films. Il essaie de monter dans un train avec un étui de contrebasse. Il passe avec ses chiens en laisse ou bien avec un étui à clairon, etc., etc. Eh bien, dans la musique d'Herrmann, vous allez le voir, c'est Wagner qui fait des apparitions, ça et là. Le Wagner de Tristan, troublant tout de même. Enfin, troisième extrait, 2 minutes de musique de Franz Waxman ou Voxman. Autre grand compositeur pour Hollywood, c'est lui, Fenêtre sur cour, Sunset Boulevard, Port de l'Angoisse, Ariane, etc., etc. Et également compositeur de compositions estampillées classiques, notamment une brillantissime fantaisie pour piano, violon et orchestre, hommage explicite à Richard Wagner. Un je ne sais quoi de salonard, mais de très inspiré à la fois. La nostalgie des cafés de Vienne et de Berlin d'avant, une nostalgie de l'Europe que Waxman dut fuir dans les années 30. Wagner, Herrmann et Waxman.
Thank you.
quelques secondes pour choisir. Septième manche, rien n'est perdu, prenez le parti d'en rire. Deux fois le boléro de Ravel, les présentations sont donc inutiles. Allez, en avant l'original bien sûr, et avant toute chose, la caisse claire. Maintenant, le produit dérivé. Alors, je sens le retour de certaines rumeurs, qu'on se le dise, cette émission n'est ni une émission cryptopolitique, ni une émission pour les nostalgiques du comique troupier.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti qui soit un peu comme un parti. Un parti placé au-dessus des partis. En bref, un parti.
Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Qui puisse protéger la patrie de tous les autres partis. Et ceci jusqu'à ce qu'une bonne partie soit partie et que l'autre partie s'est partie. Et compris qu'il faut être en partie répartie, tous en un seul parti. Notre parti,
parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons placé nos idéaux bien plus haut
de tous ceux qui ont pris le
parti.
Notre parti
des idéaux.
C'est le marteau de tous ceux qui
nous
ont pas pris le marteau.
Notre marteau, mieux
vainqueux
de vainqueux
de tous ceux qui n'ont pas pris le marteau.
Pour que ce qui ne va pas encore mieux.
C'est le marteau de tous ceux qui n'ont pas pris le marteau.
Oui, pour vivre heureux, prenons le parti d'en rire.
La joie et la gaieté peuvent nous sauver du pire.
La franchité,
la sobriété,
la gaieté,
la bonne gaieté des familles.
Oui, notre parti, parti d'en rire. Oui, c'est le parti. Et puis ça va comme ça pour aujourd'hui.
Vos choix sont-ils faits? Huitième manche, imitation géniale sans risque de contestation juridique, ce qui est parfois utile. Nous donnons enfin le micro aux plus anciens musiciens de la planète. C'est eux qui maîtrisent l'original de cette huitième manche, un rouge-gorge et une fauvette à tête noire. Pour le reste, nous sommes en Ombrie, à l'ermitage des Carcheries, juste au-dessus d'Assise, au cœur de la forêt de chênes verts, là où il est dit que Saint François bénit les oiseaux qui partirent en chantant et piaillant vers les quatre points cardinaux. En 1983, Olivier Messiaen dans son opéra Saint-François d'Assise met le rouge-gorge puis la fauvette à tête noire non seulement dans le livret et donc sur scène, mais aussi surtout dans la musique. Le rouge-gorge d'abord, avec une gamme très rapide de piccolo et de flûte glissando, d'onde marteneau et de crotal. Nous enchaînons l'original et le produit dérivé.
Ici, dans les chênes verts, sa poitrine est rouge orange. Tiens, le voilà.
La fauvette à tête noire maintenant, la restitution du chant est d'un extrême raffinement, vous allez voir, avec tous les bois en triple croche, des tris de cymbales. Alors attention, c'est vraiment court, mais je trouve vraiment que c'est merveilleux. L'original, puis le produit dérivé. On y va, la fauvette à tête noire. Pas facile de choisir, non ? Ah, Tarzan, de nouveau, ça tombe bien. Jusqu'à présent, vous l'avez remarqué, pas de vraies difficultés, pas de pièges. À chaque fois, d'ailleurs, j'ai été clair. Voilà ce qui est l'original. Et voilà ce qui est le produit dérivé. Mais si j'ajoute maintenant ceci, c'est-à-dire le cri du gorille, eh bien on hésite sur l'original. Est-ce que Tarzan imite le gorille ou alors thèse beaucoup plus audacieuse, j'en suis conscient. Pas d'abus d'alcool, vous nous en faites pas. Depuis 1932, les gorilles, en fait, se sont mis à imiter Johnny Weissmuller, alias Tarzan. Toujours est-il que pour les quatre dernières manches, nous ajoutons une question. Donc désormais, trois questions à chaque manche. Choisissez que préférez-vous personnellement. Devinez quelle est la préférence majoritaire des auditeurs. Discernez quel est l'original. Alors pour vous aider et surtout pas pour vous embrouiller, ce qui n'est pas du tout notre style, c'est le moment d'introduire une nouvelle notion inventée et développée par le professeur Raoult, par le professeur Pierre Bayard. C'est le plagiat par anticipation. C'est le plagiat par un compositeur d'un compositeur qui n'est pas encore né. Alors je sais que les tenants d'un écoulement univoque du temps, ça va du passé vers le futur et c'est tout, auront du mal à adhérer tout de suite sur le champ. Mais surmontons ces réticences qui sont compréhensibles et prenons appui sur les quatre critères mis en avant par Pierre Bayard pour identifier les cas incontestables de plagiat par anticipation. Pour qu'il y ait incontestablement plagiat par anticipation, Pierre Bayard considère donc qu'il faut 1. Qu'il y ait ressemblance entre les deux œuvres comparées, comme pour un plagiat, normal. 2. Que l'emprunt soit dissimulé et non pas ouvertement revendiqué, même chose. 3. Que le compositeur soupçonné de plagiat ait une réelle antériorité, sinon ça serait un simple plagiat. Et quatrièmement, qu'il soit évident, patent, que l'élément qui est soupçonné d'être un plagiat n'est pas à sa place, qu'il y a quelque chose qui cloche. Appliquons ces quatre critères à deux œuvres, une du XVIIIe siècle, l'autre du XXe siècle. C'est l'objet de notre neuvième manche. À la création des Boréades de Rameau au Festival d'Aix en 1982, j'y étais. Tous les auditeurs du début du cinquième acte se sont écriés « Mazette, mais c'est du Webern !» Au regard de nos quatre critères, ressemblance, nous allons l'entendre, elle est patente. Dissimulation, jamais Rameau ne s'est réclamé de la manière de Webern. Antériorité, un siècle et demi les sépare. Enfin, le décalage, malaise du spectateur. Et vous allez l'entendre, le caractère incongru de ce passage saute aux oreilles. La conclusion me paraît s'imposer. Vous allez voir, à vous de discerner, à vous de vous faire votre idée. Quel est l'original ? Rameau en 1763 ? Thank you. Uwe Burn en 1909. Donc, votre choix personnel, celui du public et l'original, quel est-il ? Les jeux sont faits. Dixième manche, pas évidente. Deux adagietto, deux orchestrations similaires, des thèmes voisins, plagiat simple ou plagiat par anticipation. D'un côté, une œuvre qui est une des signatures de Gustav Mahler, universellement connue depuis Mort à Venise notamment, l'adagietto de la 5e symphonie, qui a été composée en 1902. De l'autre, une œuvre composée en 1872, c'est-à-dire 30 ans avant, et une œuvre qui n'a pas vraiment atteint une forte reconnaissance, c'est l'adagietto de la première suite de l'Arlésienne de Bizet, une œuvre que Mahler, bon garçon, a d'ailleurs dirigée. Moins évident que le cas Rameau-Weber, me semble-t-il. Après tirage au sort, d'abord Mahler, ensuite Bizet. Quel est l'original ? Quel est le plagiat ? Pas évident, je dirais même plus, pas évident. 11e manche, peut-être plus simple qu'il n'y paraît à la première écoute. Comment composer une onde hurlante? Vous savez, un crescendo montant, montant, montant jusqu'à la saturation. Nous allons écouter le même compositeur, la même œuvre, la même scène, le même orchestre, le même chef, une seule et même note, le si, et pourtant deux méthodes. Là aussi, après un vrai faux tirage au sort, nous allons d'abord entendre la méthode par accumulation. Les instruments entrent successivement, le gonflement progressif de l'effectif instrumental assure naturellement le crescendo qui se termine par un rythme percussif fantastique. Juste après, deuxième méthode, la méthode où tous les instruments, y compris les percussions, entrent en même temps et font ensemble l'immense crescendo. C'est l'interlude qui suit juste la mort de Marie dans Wozzeck d'Alban Berg. Alors, quel est l'original, votre préférence, celle du public? À vous de jouer. Deuxième manche, la dernière, et pour finir, du difficile. Mazette, l'original, c'est toujours l'original. Jacques Champion de Chambonnière, l'inventeur des couperins qu'il fit venir de l'Abri à Paris, était unanimement admiré par ses contemporains, comme compositeur d'abord, comme claveciniste, on louait beaucoup son toucher, très noble et luxuriant, comme danseur aussi, il participa au Ballet Royal de la Nuit en 1653, aux côtés de Louis XIV, encore adolescent. Nous allons écouter une sarabande de Chambonnière. La partition de cette sarabande est peu développée, donc cela laisse à dessein une marche très substantielle lors d'interprétation. Il s'agit bien sûr d'ornementer avec goût, mais surtout au-delà, l'interprète est invité, mais pas contraint, à enrichir la rhétorique, notamment à travers le toucher, la tenue des notes, la résonance, et aussi la façon de passer d'une note écrite à la suivante. Ainsi, d'un claveciniste à l'autre, l'œuvre est toujours la même. Rapportée à la partition, c'est la même chose, mais elle peut prendre une épaisseur qui la métamorphose complètement. Il faut ajouter que selon les experts de l'époque, il était courant qu'un luthiste, assis sur le côté, derrière le claveciniste, lise sur son épaule, en quelque sorte, la partition posée sur le pupitre du clavecin et improvise un continuo d'accompagnement avec amplification des effets de résonance. Ampleur de l'improvisation et de l'élaboration rhétorique ou sobriété, clavecin seul ou clavecin accompagné au théorbe et au luth, voici deux interprétations. Où est l'original? Où est le produit fini? Pas si simple, mais bon, c'est la dernière manche, c'est difficile. Thank you. Le moment du choix et du discernement. Fin de notre jeu, nous pourrons recommencer parce que la matière est très vaste et profonde. Un dernier exemple hors compétition donc, en 1975, Luciano Berio se rappelle que Luigi Boccherini, deux siècles plus tôt, a écrit quatre versions différentes, au moins, de sa célèbre musique nocturne dans les rues de Madrid. Et alors Berio a l'idée de superposer exactement les quatre versions qui coïncident pas complètement. Donc où est l'original? Quel original? Peu importe, car cette musique est exubérante avec un puissant crescendo qui va atteindre des sommets sonores avant de disparaître dans la nuit madrilène. Nous en écoutons le début. J'allais oublier de vous le dire, après réflexion et malgré l'expérience formidable accumulée au sein de Radio France, avec le jeu des 1000 euros, avec tous les jeux de téléachat sur France Culture, le dépouillement des résultats de notre jeu va être confié à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Ce sont des chercheurs très équipés du point de vue cérébral. Leurs activités s'appuient sur de grands programmes observationnels, des calculs numériques intensifs, des calculs analytiques poussés. Et de surcroît, astrophysiciens comme ils le sont, ils voient haut et loin par définition, dans le temps comme dans l'espace, exactement ce qu'il nous fallait, étant donné la complexité des questions que nous sommes posées aujourd'hui. Merci à François Sureau, grand apollinarien devant l'immortalité bientôt. Il était apollinaire tout à l'heure avec les attentives. Nous nous retrouvons samedi prochain, même lieu, même heure. Les astrophysiciens de l'IAP, la musique nocturne de Boccherini, l'arrivée prochaine des colonies d'étoiles filantes dans notre ciel augustéen. Tout nous y pousse. Samedi 8 août, c'est dans la nuit que nous nous enfoncerons résolument sous les astres, dans la nuit haute et claire. D'ici là, bonne semaine. N'oubliez pas la pleine lune, ce lundi soir, le 3 août. Toutes les références musicales, la réécoute, le podcast de l'émission d'aujourd'hui et de celles qui l'ont précédée sont sur la page Mazette, quelle musique, sur le site de France Musique. Merci à la fine équipe qui, avec moi, vous a offert cette cinquième émission de notre série estivale. Flora Sternadel, Adelino Mello et rien moins que Thomas Jost à la réalisation. Très bonne semaine sur France Musique. Dans 2 minutes, été classique.
À réécouter sur francemusique.fr.